une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, bonjour, on est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine avec ma chronique Mormir à Platzele, fais-moi une place, chronique d'André Müller. André Müller, ich bin's quel. Chaque jour n'est pas forcément un bon jour, mais il y a du bon dans chaque jour. Qu'en pensez-vous, chères grandes oreilles de la Judaïka, hein? Une belle question. Et ce bon matin, j'ai invité une grande voix de la gastronomie italienne, un capo de la cucina, qui a l'étoffe d'un grand chef, Bruno Cutropi. Bruno a une élégance naturelle qui se ressent dans ses attitudes avec une touch de nonchalance. Il est drôle, le Bruno, avec un bagage linguistique conséquent, parle l'italien, le touch, l'alsacien, avec un accent qui apporte une couleur attachante, souvent teintée de chaleur et de convivialité. Voilà, j'ai transcrit mon ressenti, je connais assez bien mon invité surprise, Bruno, le charme à l'italienne. Alors, je vais dire buongiorno Bruno, comment stai capo de la cucina?
Gute Morgen, André, merci beaucoup pour ce texte élogieux. C'est vraiment gentil, merci.
Ben, je crois que c'est ce que je ressens quand je te connais, quand je te côtoie. C'est ce que le charme à l'italienne, le naturel, comme ça. On va parler tout ça un petit peu pendant notre demi-heure. Alors, parle-moi un tout petit peu de... D'abord, je voulais te dire, je suis très content que tu sois là, à côté de moi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être venu. Du bord de la Bruche, hein.
C'est ça.
D'Ernolsheim, je crois.
Sur la plage de la Bruche, d'Ernolsheim.
Et tu es venu avec une barque à fond plat jusqu'à Strasbourg.
Oui, exactement. J'ai passé les écluses. Je suis venu vraiment à la rame ce matin. Il faisait un peu frais, il y avait un peu de brouillard.
Il y avait un peu de
brouillard. Très beau paysage avec ce lever de soleil alsacien, magnifique.
Ah ouais, c'est bien. Alors, Ernolsheim, dans ce village rural, c'est là où coule la fontaine, le Fontana. C'est ton petit coin d'Italie en Alsace.
Alors, La Fontana, oui, c'est vraiment, je veux dire, la traduction de La Fontaine, avec toute sa poésie.
Jean de La Fontaine.
Jean,
c'est
bien sûr.
C'est un double sens.
Oui, c'est ça, exactement. Jean de La Fontaine, exactement. Et on est très, très heureux d'être installé depuis 35 ans. Cette année, ça va faire la 35e année qu'on est sur Ernolsheim sur Bruche.
Quel bonheur, mais quel bonheur d'être là-bas. Ouais. Et puis, tout ce qu'on a dans l'assiette aussi, on en parlera un peu tout à l'heure. Alors, tu es maître restaurateur, c'est une belle médaille ça quand même. Tu cuisines maison, ça veut dire que tous les produits, c'est toi qui fais tout. Raconte-moi, c'est quoi maître restaurateur?
On transforme tous nos produits nous-mêmes, on reçoit, des produits frais, comme le poisson, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est, viande, tout est frais, hein, bien sûr. On n'a pas de choses à la carte typiquement, comme le poisson par exemple, on n'en met pas à la carte, on n'a que en suggestion. Donc on a une petite livraison tous les jours et vraiment ça fait plaisir à notre clientèle.
Ah ben ça j'imagine, ouais. Alors aussi, t'as aussi, je connais aussi Monsieur Pudelot, le guide Pudelot, t'es meilleure table étrangère élue par le guide Pudelot, c'est ravissimo, c'est extraordinaire.
Pour nous ça a été vraiment, je remercie encore Gilles Pudlowski pour sa nomination, enfin pour notre nomination.
Ouais.
Et franchement il nous a vraiment mis un super titre et ça a fait vraiment boule de neige.
Bien sûr, après il y avait des articles dans les DNA.
Il nous a mis aussi des articles dans les DNA, dans le Point, au niveau national. Franchement, on a été
gâté
par ce monsieur qui a un palais extraordinaire. Et lorsqu'on le voit dans ses reportages, on a toujours envie d'aller manger dans les restaurants qu'il nous présente parce qu'il a cette façon, cette mimique. D'expliquer les plats et de les faire savourer sans odeur, sans rien, mais juste avec sa mimique, elle est exceptionnelle.
Et lui aussi, il a été élogié, je raconte un peu la même chose, parce qu'il a été aussi très élogieux avec ce que tu fais. Donc,
avec toute la famille, avec mes enfants,
Smala,
mon épouse.
Alors, tu cuisines en famille avec ton fils Antonio, de père en fils. Hein,
c'est ça.
Il est en cuisine avec toi, ton fiston.
Oui, depuis 10 ans.
Depuis 10 ans. Et tu cuisines aussi avec Nico et ton frère Giovanni, je crois, dans la cuisine.
Oui, exactement. Ils travaillent tous les deux avec nous. Nico et Giovanni travaillent avec moi. Giovanni est au froid et en pâtisserie, et Mico est au pizza, et un peu en cuisine en ce moment. Il est en train de se former en cuisine, et puis voilà, on aimerait passer le côté pizza à une personne qui vient de nous rejoindre. On verra.
Alors aussi, tu as une pièce maîtresse dans ta famille, c'est la Mamma Rosa, qui est là tous les jours à tes côtés, quasiment.
Ah, Mamma, la nonna, on l'appelle la nonna, mes enfants l'appellent la nonna, qui veut dire grand-mère.
Grand-mère.
Et pour nous, c'est la Mamma, oui, effectivement. Ben, Mamma Rosa, en fait, elle est avec nous, oui, tous les jours. Elle est là, elle vient donner son petit point de vue, elle passe vers 11h, elle vient voir ce qui se passe, elle regarde un peu comment tout a été fait, si nous avons suivi exactement ces recettes comme elle nous les a apprises. Et franchement, oui, c'est un bonheur de la voir tous les jours.
Tu es entouré de plein d'affection avec elle, elle est tout le temps à tes côtés.
Oui, elle est intemporelle. Intemporelle.
C'est incroyable cette relation qu'a la maman avec ses enfants, surtout côté italien, là, cette famille.
Et elle se fait entendre. Sache-le, André se fait entendre et ne va pas dire une chose qu'elle aurait pas dite. Je veux dire, c'est la guerre qui se déclenche.
C'est vrai que j'ai eu quelques fois au téléphone parce que je suis en train d'écrire un maxi flash sur votre maison, sur ta famille. Donc je l'ai eu quelques fois au téléphone et c'est vrai que c'était intéressant tout ce qu'elle m'a raconté, ses origines calabraises, tout ça. C'est quelque chose d'incroyable. Et alors, et cette Mamma Rosa, on peut dire quel âge elle a?
On va dire l'âge qu'elle a, bien sûr. Elle aura 85 ans cette année, le 10 octobre.
C'est incroyable. C'est vrai qu'une belle âme n'a pas d'âge, Bruno. Hein. C'est vrai, on peut dire ça comme ça. Hein.
C'est vrai.
On va écouter un tout petit peu de musique italienne pour reposer nos petites oreilles. Vas-y voir, mets voir la petite musique, Thomas.
Mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
C'est toute ta jeunesse, cette musique, Bruno?
C'est toute ma jeunesse. En fait, ça a été une chanson qui a envahi toute l'Europe, je pense.
La planète, on
et
peut le dire.
Et la planète, par après, ouais, oui, Toto Boutugno est un compositeur, je veux dire, interprète, chanteur, et je veux dire, écrivain. Il a fait beaucoup de chansons, même pour Johnny Hallyday, d'ailleurs.
Ouais,
idole française.
Ouais. Alors, tu parles à l'instant de ta jeunesse. Parle-moi un petit peu de ta vie d'avant. Tu es né en Alsace, je crois. Où est-ce que tu es né en Alsace?
À Strasbourg.
In Strasbourg?
Oui.
À la clinique Sainte-Anne?
Non, à l'hôpital civil.
À l'hôpital civil. Et tu as grandi, alors tu as grandi où, dans quel endroit?
À la Cité de Lille.
Yo-yo, à la Cité de Lille?
Oui, à la Cité de Lille.
Wow.
Très, très belle jeunesse. À la Cité de Lille, à côté de la Robertsau, en fait. Et mes parents ont eu un appartement en HLM, en fait.
Dans cette grande tour, là, dans le gratte-ciel?
Non, pas dans la grande tour. Non, la tour était réservée à une élite de la cité, je pense.
C'est pas vrai.
Oui.
Ah ouais.
Mais on était rue de la Fechte, au 7 rue de la Fechte, à Ernolsheim. À la cité de Lille. Pardon.
Ouais.
Et on a passé une enfance magique.
Heureuse, paradisiaque.
Oui, heureuse parce qu'on était un melting pot d'ethnies. On avait toutes les ethnies qui existent sur la planète étaient présentes dans la cité. Et on n'a jamais eu de soucis, de voisinage,
de conflits.
Voilà, je pense que ça a été pour moi une jeunesse heureuse.
Oui, parce qu'on avait des terrains de jeu.
On avait
des terrains de jeu. Il y avait les maraîchers pas loin. Il y avait des grands maraîchers en fait à côté de la Cité de Lille.
Des jardins. Des gens qui élevaient leurs poules, leurs lapins.
Ouais, c'est ça,
on allait acheter
c'était
ça
la campagne,
directement.
Quoi.
C'était la campagne.
La campagne.
On dit la Cité de Lille, mais non, c'était vraiment la campagne. Il y avait que ça.
Au début, dans les années de ta jeunesse, quoi.
Absolument. Je me rappelle, on avait une espèce de le Fußball Platz, on appelle ça.
Ah ouais, Fußball Platz.
Qui était à la cité Lille, qui était dans une grande crevasse comme ça. On avait une espèce de grand trou comme ça en plein milieu de la cité. Et on allait, donc ça servait de terrain de foot, je veux dire, en plein, pour nous, hein, je veux dire, pour les gamins. Et en hiver, ça nous faisait même une piste de luge.
Ah oui.
Parce que c'était, on allait à l'école de la Schwilgé, c'était juste à côté de l'école de la Schwilgé.
Ah oui.
Et c'était vraiment, oui, non, pour nous, ça a été, pour mes sœurs et mon frère, ça a été une belle enfance.
Et en fait, à côté de Lille, quand tu passes le pont, tu avais ces maraîchers, là où il y avait ces petits wagonnets avec des rails, là, tu te souviens de
oui,
ça?
Oui, absolument.
Où on se mettait dedans à jouer à Ben-Hur et à se courir après.
Oh, peut-être toi, tu jouais à Ben-Hur.
Moi, je jouais à Ben-Hur. Parce que j'habitais pas loin non plus, de l'autre côté, en fait, dans une autre cité HLM, après
je n'étais
canal.
Qu'un soldat de Ben-Hur, je n'étais pas Ben-Hur.
En tout cas, tu dis que c'est une enfance heureuse.
Oui.
Et cette enfance heureuse te poursuit après, jusqu'à toujours. Quoi.
Je pense parce que non seulement notre enfance heureuse par rapport aux habitants, par rapport aux copains de classe, et en plus notre éducation, je veux dire, notre éducation
bien
familiale
sûr.
Nous a permis d'évoluer, oui, absolument.
Et d'aller, t'as eu cette piqûre aussi d'aller vers l'excellence tout le temps?
Bah, le fait de, je veux dire, le bien manger, et, je veux dire, comme on dit en Italie, n'évoque pas ou n'invoque pas le fait de se dire d'aller manger un faisan ou d'aller manger du caviar à chaque repas. Le bien manger, c'était quelque chose de cuisiné et, je veux dire, d'avoir, en retour ce goût. Ce goût de légumes, ce goût de pâtes, ce goût de ce qu'on veut, de ragoût, de ce qu'on faisait, de ce que faisait maman en cuisine. Et voilà, je veux dire, on a pu le transmettre. Maman nous l'a transmis et je l'ai transmis à mon fils. Et aujourd'hui, oui, effectivement, c'est pas une question d'excellence. L'excellence, pour certains, peut dire...
D'aller vers ce qu'il y a de meilleur, d'aller bien faire les choses.
Du bon produit.
C'est ça, oui, c'est ça.
Le bon produit, d'avoir le bon produit. C'est ce que je disais... dans le temps, quand on allait sur un marché, ça sentait au printemps le poireau, la carotte.
D'ailleurs, tu me parlais de ce marché à côté de des produits Marguerite.
Absolument, on allait.
Moi aussi, j'allais là-bas parce que j'habitais pas très loin. Et là-bas, tu me parlais des légumes, ce que tu sentais. Parle-moi un petit peu de ces légumes que
Le matin, quand on arrivait avec maman, on traversait ce pont. On venait à pied hein, quand même de la cité de Lille. On traversait ce pont, on arrivait sur le parking.
Comme un toboggan, là,
voilà,
en fait.
Exactement. Et on arrivait sur ce parking des produits Marguerite. Et il y avait ce grand marché ouvert. Où il y avait les maraîchers qui venaient vendre leurs produits. Et effectivement, quand on s'approchait d'un stand de fruits et légumes, ça sentait et la carotte, le fan de carotte embaumé, le poireau, les oignons, tout ça, ça embaumait, ça envoyait une odeur de légumes frais. On avait envie, en fait, de... Mais aujourd'hui, quand on rentre dans un marché, il n'y a plus rien. C'est inerte. Il n'y a pas de...
Il n'y a plus ces odeurs.
Il n'y a plus ces odeurs.
Ces bonnes odeurs
de marché. On ne les retrouve plus du tout.
C'est joli à l'image. C'est joli de les regarder. Ces produits colorisés comme ça. Mais,
absolument.
Mais c'est vrai qu'il y a plus ce que tu dis. C'est vrai, effectivement.
Il n'y a plus ces odeurs. Il n'y a plus ces trucs. Ou alors, je ne sais pas. Ou alors, j'ai peut-être perdu l'odorat.
Non, je ne crois pas, non.
Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller encore dans les fermes, trouver nos produits. Vraiment chez le paysan, je veux dire, aller acheter ces produits-là, c'est important. Que d'acheter des produits faits sous serre industriellement, c'est...
On parle à l'instant du poireau, parce qu'à la Robertson, on dit que c'est les leuches, c'est les poireaux. Et tu sais où commence le poireau? À la racine.
Ah bah oui, très bien. Oui,
c'est pas mal.
J'étais plutôt dans l'histoire du poireau. Je pensais que tu allais me sortir une histoire de poireau. Mais bon, excuse-moi, oui, non, j'aurais pu répondre, effectivement.
C'est une blagounette, en fait, de Sylvaine de la Sandkech qui m'a sorti jour.
Tu la connais, eu le message. Je voulais aller manger hier soir chez elle.
Sylvaine, c'est elle qui raconte ça avec le poireau, ça commence à la racine.
c'est bien, elle a bien raison. D'ailleurs, je l'embrasse très fort.
Même nous aussi, parce qu'on l'aime bien, elle est très théâtrale. Alors, l'école, en fait, ton école, tu l'as de la maternelle. Raconte-moi un peu son histoire à la maternelle de la cité de Lille. Tu avais une petite Ève, je ne sais pas
oui,
quoi.
Oui, en fait, mon frère et mes sœurs avaient mission. À l'époque, il y avait encore l'école des filles, l'école des garçons. Et la maternelle, où nous étions que à la maternelle en mixte. Les autres étaient encore séparés. Et ils avaient pour mission de me déposer à la maternelle. Donc, ma première maternelle, le premier jour d'école, je suis parti à la récréation avec une, une jeune fille qui s'appelle Ève. D'ailleurs, je fais un appel, si jamais elle reconnaît cette histoire. Non, je rigole. Mais je suis parti avec Ève. Je n'étais pas Adam à ce moment-là. Mais j'ai eu beaucoup de... J'ai fait beaucoup de mal à ma maman et à mon papa et à mes frères et sœurs parce que je pense qu'ils ont pris une rouste, mes sœurs et mon frère, parce qu'ils m'avaient perdu.
Et t'as tu veux dire que t'as fugué, quoi.
J'ai fugué de l'école.
Ah ouais.
Et donc, le portail était ouvert. J'ai fugué de l'école.
Avec cette petite fille,
alors. Avec cette petite fille, on s'est promené dans la cité.
Wow.
Et on m'a retrouvé, il était 13h.
Donc, du matin jusqu'à 13h. Donc, oui, quelle angoisse pour les parents, quoi.
Oui, c'était angoissant. Mais c'était mon premier acte d'amour.
Tu as voulu schmusser avec cette petite fille?
Non, j'ai pas schmussé. J'ai juste tenu la main.
Bon, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
C'est une belle preuve d'amour. Et ensuite, cette école. Dans cette école, on parle de l'école maternelle. Après, tu as fait toute ta scolarité à la Robertso.
Jusqu'au CM1. Ensuite, je suis parti à Ernesheim pour le CM2.
Ah, d'accord. Et alors, tu étais plutôt un bosseur, un rêveur?
Pas du tout. Un rêveur.
Un rêveur.
Oui, un rêveur. J'étais plutôt rêveur. J'étais plutôt. Voilà, nonchalant, j'y allais plus à reculons que...
Ouais, que le plaisir d'y aller, quoi.
Que la tête baissée, ouais, oui, je veux dire. J'étais pas amateur, c'est vrai.
Et t'as fait l'ENA, je crois, non? L'école de l'ENA?
Là, j'ai fait l'école de l'ENA, j'ai fait l'école nationale des ânes, on m'a dit. Mais super, j'ai eu mon bac à plonge.
Le bac à plonge.
Et puis voilà, donc j'ai évolué dans la restauration. Mon papa, je voulais plus aller à l'école. Mon papa m'a déposé, si on peut dire ainsi, à l'âge de 14 ans, entre 14 et 15 ans, dans un restaurant chez Monsieur Caratella, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il n'est plus là, il est parti déjà, mais pour lequel j'avais beaucoup d'estime, pour lui et toute sa famille d'ailleurs.
Et là, c'est là que tu as fait le bac à plonge?
Non, j'étais au bar. J'étais au bar. Je rigole quand je dis le bac à plonge. Mais je veux dire, j'étais au bar et j'ai appris buffetier, le métier de buffetier.
Ah,
et,
ouais. Buffetier, c'est quoi?
Barman. Barman, c'est plutôt... buffetier, c'est celui qui sert les boissons.
Ah, buffetier. Ah, voilà. J'ai jamais entendu.
C'est un vieux mot de la restauration.
Ah ouais, c'est joli.
Et après, le barman, c'est celui déjà qui sait faire des cocktails.
Des cocktails, ça, ouais, c'est ça. Ouais.
Et ça m'a permis de partir de chez eux et d'aller à Strasbourg, au coin du feu. C'était rue de la Rappe, à côté de l'hôtel suisse, où j'y ai travaillé quelques mois, et je suis parti ensuite à Paris.
À Paris où tu
as... Paris, j'ai travaillé un an et demi, je suis parti à Paris, toujours en salle, et mon patron parisien nous a emmené, ma compagne et moi, à l'époque, en Suisse, à Arosa.
Ah ouais.
Chez les Kruzzi Mittenand.
Kruzzi, on dit Pechtor le Pexé.
Et en fait, c'était assez intéressant. C'était une expérience unique parce qu'il m'avait demandé si je parlais allemand.
Ah.
J'ai dit oui, j'ai des bases d'allemand parce que j'ai appris ça à l'école.
Bah,
et
ouais.
Puis, je connaissais un peu l'alsacien aussi. Ouais. Mais le Süddeutsch n'a rien à voir avec ni l'allemand, ni avec l'alsacien.
Ah ouais, c'est compliqué. Ouais.
C'est un peu compliqué, c'est une langue complètement à part. Et voilà. Donc, mais j'ai bien vécu en Suisse. Et je suis...
Ah ouais, tu étais payé en francs suisses.
En francs, et en...
T'as ramené de l'or et tout dans la valise.
Tout. Non, de l'or peut-être pas, mais voilà. Une belle expérience.
Ah,
une belle...
Alors, j'avais quand même une petite question à te poser. D'où te vient cet humour, cette papule que tu as, cette gouaille, cette aisance? Elle te vient d'où, ça?
Tu ne le sais pas encore, André. Tu es mon mentor. Tu ne
oh non,
le savais
ça m'étonnerait.
Pas.
Non, mais je crois que ça vient d'un endroit, là où sont tes racines, dans le sud. Mais nous voir la petite chanson de Dalida. On va écouter ça ensemble. Tu as reconnu cette Dalida, elle a des origines. Quelles origines elle a?
Calabraise. Tu sais que Dalida est d'origine calabraise. Tout le monde l'a nommée égyptienne, mais je veux dire, elle avait aussi des origines calabraises. Et je veux dire, la Calabre, c'est toute ma ressource, je veux dire, de jeunesse.
Génétique, c'est...
Et mes parents, enfin, mon père et ma maman, sont originaires du même village de Bruzzano, qui est un petit village au fin fond de la Calabre.
Très pauvre village dans les années 50, c'était...
Oui, c'était un village où il y a toujours rien, en fait.
Mais autrefois, il n'y avait pas...
À part le sourire des gens la bienveillance, il y a, bien sûr, le bleu de la mer. Et des kilomètres de plage où il n'y a pas une âme qui s'y perd parce qu'on n'a pas ce tourisme,
Oui, mais ton épouse Marine me disait l'autre jour, quand j'étais vous voir, elle me disait, oui, mais quand Bruno va en vacances, il va plutôt chez ses cousins papoter que de se baigner, que d'aller à la mer, se faire dorer au soleil. Il va voir toute sa famille, quoi.
Ben en fait, quand j'arrive le matin à la plage, j'ai déjà tous mes cousins et toute ma famille qui sont là. Et j'ai, ou eux ou moi, j'ai toujours une anecdote à raconter où je me fais interpeller par mes cousines. Dis-nous comment tu prépares ça. Dis-nous comment tu fais ça. Nous, on le fait comme ça. Et on fait des échanges de cuisine, des échanges de légumes, de fruits, des choses qu'on pourrait, mettre chez nous. Parce que j'ai des cousines aussi qui sont... carré
en cuisine.
Et elles me disent, oui, tu dois mettre ce plat-là à la carte.
Alors, la Calabre, c'est aussi la bergamote, c'est les oignons.
C'est les oignons de Tropea, c'est l'huile d'olive, c'est un ramassage à la main, c'est des choses qui sont ancestrales, où les gens ne s'en rendent même pas compte, que du boulot qu'il y a derrière, c'est... la charcuterie, la bergamote. La bergamote, qu'on a essayé de planter un peu partout sur la planète, mais chez nous, c'est vraiment une enclave où il y a à peu près 80 kilomètres où cette bergamote a un goût particulier.
Qu'est-ce qu'on en fait de la bergamote ?
La bergamote, on en fait de l'essence. On en fait de l'essence pour les parfums. Les plus grands parfumeurs français, les parfumeurs anglais, viennent prendre de l'essence de bergamote de Calabre de chez nous pour en mettre, dans leur composition. On en fait de la pâtisserie, on en fait des pâtes, on en fait...
Tu l'utilises en cuisine aussi ?
Je l'utilise, je viens d'avoir d'ailleurs Andrea, il se prénomme comme toi.
C'est pas
Andrea
vrai.
Avait le petit restaurant à côté de la place Saint-Étienne, le Gepetto, je sais
pas. Ah, le Gepetto, oui, ça me parle, oui.
Et malheureusement, son épouse n'est plus là, mais Marika était une personne exceptionnelle. Et Andrea m'a ramené de son propre jardin, là, il y a une semaine, il m'a ramené les dernières bergamotes qui ont mûri. D'ailleurs, qu'on peut manger aussi, la bergamote, normalement, quand elle est très verte, on ne la mange pas parce qu'elle est hyper acide. Mais la bergamote mûrie au mois de mars, on peut la manger. Elle a toujours ce goût très fort, une acidité, mais c'est magnifique, ça a un goût exceptionnel.
On va écouter un tout petit peu Bourvil, tu vas voir, on va parler un peu de tendresse, tu vas voir, c'est très sympa.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non.
Bruno, on ne peut pas vivre sans tendresse. Et la tendresse italienne, c'est un lien très, très, très fort. C'est comme les clettes, comme ça, on se donne la main.
C'est vrai ce que tu dis. On a cette culture. On a cette culture d'être, d'avoir les, comme tu dis, les clétels, les chardons, ou de vivre vraiment en famille. On vit souvent en famille.
Bah, chez toi, c'est toute la famille qui est à Ernotzheim sur Bruche.
Ah,
t'as tes parrains, tes oncles, tout le monde est là, quoi.
Tout le monde est là. Ma maman, elle est là. Le dimanche, si tu viens chez maman, à partir de 9h, c'est, le défilé. Ses frères viennent. qui vient pour le café, qui vient pour l'apéro, qui vient l'après-midi, qui vient pour déjeuner, qui vient l'après-midi pour le recafé. Si
c'est
tu
la
veux.
Mama, quoi.
C'est la mama. La mama a toujours, je veux dire, a toujours été une personne qui a...
Maîtresse. Le pilier, en fait.
Le pilier, elle a toujours unifié la famille. Tout le temps, même s'il y a eu des petites discordes ou quoi, elle a toujours réunifié, elle a toujours été là pour ça. Et elle est toujours là pour ça.
Et c'est ce que tu transmets, toi aussi, à tes enfants ? Et c'est ce que tu... Ce sens de la famille, c'est...
Mais c'est important, le fait d'avoir, je veux dire, je veux dire, comment ça, des maillons collés, des maillons, je veux dire...
Comme la chaîne du vélo.
Comme la chaîne du vélo, là. Mais pour nous, c'est très important. Du moins, pour moi, c'est très important. Je veux dire, je fais passer ma famille en avant. Surtout mes enfants, mon épouse.
C'est beau, c'est
énorme. Mais
je
veux dire, ma maman, bien sûr. Et je fais passer les choses, oui, j'essaye de concrétiser quelque chose unis ensemble, tous unis.
Tu parlais à l'instant de ton épouse Marine, oui. Qui est en salle. Qui
Marina,
t'aide.
Marina.
Marina, ouais, mais elle est alsacienne aussi, je crois.
C'est Schmarine.
C'est Schmarine. Elle a des yeux marines, d'ailleurs. Hein.
Elle a des yeux marines, c'est sa clairvoyance.
Et alors, je sais qu'elle est très sportive, elle s'entraîne, elle fait des marathons, mais c'est incroyable.
Elle fait des semi-marathons, elle s'entraîne pour un marathon, enfin voilà.
Est-ce qu'elle est aussi rapide pour donner les assiettes aux clients?
Oui, elle a cette dextérité, elle a cette aisance. Elle n'est pas issue de ce métier, mais elle a cette aisance et ce côté agréable. En salle, elle évolue vraiment avec beaucoup de plaisir, je pense d'ailleurs. Et mais ça se ressent, notre clientèle est très contente. Je veux dire, ils sont très contents de l'accueil. Je veux dire, j'ai... ma belle-fille Chloé, qui est là, qui travaille avec nous. J'ai Bianca, qui travaille avec nous aussi depuis quelques années. Et je veux dire, c'est vrai qu'il y a une cohésion en salle. Elles savent de quoi elles parlent. Elles ont ce côté, entre guillemets, magique.
Ouais, c'est bien.
De la salle avec le sourire.
Ce qui fait aussi ton succès dans un restaurant. Parce que s'il y a une belle cohésion comme ça, c'est aussi... Les gens viennent aussi pour ça, pour être à l'aise, pour être bien servi. Et puis après, t'as tout changé dans ton restaurant. Il est en ce moment, c'est un goût à l'italienne. T'as tout
repeint.
Oui, repas.
Bien sûr.
T'as acheté des beaux mobiliers.
Mais il faut un peu de design. Il faut quelque chose. Il faut attirer ou garder notre clientèle. Effectivement.
Et ça sert aussi à faire briller les assiettes, quoi. Je veux dire.
C'est important. C'est très important. Disait. Je me rappelle de ce que disait Annie Vogel, qui avait le pont des Vosges.
Ah, Annie, avec la purée.
Ouais,
elle faisait la meilleure purée d'Alsace.
Et le foie de veau.
Le foie de veau
était excellent.
Ah, ouais.
Et elle disait toujours, si vous voulez gagner plus de pourboire, souriez plus. Et en fait, c'était son dicton.
Ah ouais?
Ouais, c'était son petit dicton.
Et ça, c'est quelque chose qui marche. Tu souris et t'as un peu plus de...
Mais je pense que c'est une belle leçon de vie. Quand on accueille quelqu'un avec le sourire, je trouve que c'est très important. Ça,
absolument.
Ça ouvre l'esprit.
C'est très important.
C'est très important.
Et Dieu sait que ça n'existe pas partout, ça.
C'est vrai, c'est vrai tendance.
Ouais, je connais des adresses à Strasbourg dont je ne te parlerai pas.
Quand
on vient chez toi, c'est l'humour, c'est la convivialité, c'est sympa, tu discutes facilement avec les gens, tu vas vers l'autre.
Moi, j'aime ça. Mon épouse me dit toujours, rentre en cuisine parce que tu parles trop.
Tu parles trop.
Ouais, mais j'adore parler.
Ouais.
D'ailleurs, je pense que je viendrai...
Tu veux revenir à la radio?
Te suppléer,
ah, oui.
Je veux dire, à la radio quand tu auras...
Avec plaisir.
Quand tu auras une place pour moi, je viendrai.
Ah ben, tu viens, on fera une émission ensemble, si tu veux, ouais.
En alsacien et en italien.
Je vais le proposer à monsieur le rabbin pour voir ce qu'il en pense.
Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après, s'il faut le dire, je veux dire...
Non, mais moi, je parle que le alsacien.
Que le alsacien,
mais pas trop. Mais tu pourrais m'apprendre l'italien aussi, hein?
Con gran piacere.
Ah, ça veut dire quoi?
Avec grand plaisir.
Je l'ai comprendu. Bah écoute, voilà, notre émission se termine. C'était très sympa de t'avoir ici devant cette forêt de micro. Je te remercie d'être revenu. Reviens quand tu veux. Ici, t'es chez toi, mon ami.
Merci André. Je vais pas enfourcher ma bicyclette parce que ça fait un peu loin à Arnoldsheim. Mais merci pour ton accueil et merci à toute l'équipe.
Mais merci beaucoup. Générique de feigne.